Souvent dans la Bible, il y a des analogies ou des comparaisons entre la vie chrétienne et le fruit de la vigne. Et ça, c'est une comparaison que nous pouvons comprendre facilement. Ici en France, comme vous le savez, le viticulteur a une longue histoire. Cette histoire a commencé avec les Romains il y a 2000 ans, quand la vigne vinifera a été introduite en France. Pendant des années, les viticulteurs ont développé le métier, ils ont trouvé la terre parfaite, le bon climat pour la cultiver, le bon procédé de production, etc. Et grâce à cette tradition, la France est la meilleure producteur de vin dans le monde. Aux États-Unis, par contre, l'histoire de la vigne a commencé plus lentement. Il y a 5 siècles, les Européens sont arrivés en Amérique du Nord. Beaucoup se sont installés dans le territoire qui devait devenir les États-Unis et le Canada. Bientôt, ils ont commencé à chercher quelque chose d'autre à boire que de l'eau. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont trouvé pour étancher leur soif? Ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils ont découvert un type de vigne sauvage, avec plein de fruits. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait avec? Oui, vous avez deviné correctement. Ils ont fait du vin. Mais quand le moment est arrivé de goûter le cru, qu'est-ce que vous imaginez? C'était horrible. C'était épouvantable. C'était absolument effroyable. Le vin sentait la boue et les animaux. En fait, dans un livre d'histoire, j'ai lu qu'après avoir goûté le vin sauvage, un colonisateur a dit que c'était comme boire un renard. Et ça, c'est le début de l'industrie de vin aux États-Unis. C'est seulement quand les Américains, bien des années plus tard, ont importé la vigne européenne qu'ils ont commencé, eux aussi, à produire de bons vins. Quelle est donc la différence évidente entre la vigne européenne et la vigne sauvage? C'est le fruit. De la même manière, à votre avis, quelle est une des différences évidentes entre un homme qui vit dans les péchés et un homme qui vit par l'Esprit Saint? C'est aussi le fruit. Ce que produit la vigne sauvage est complètement insuffisant. Et de la même manière, ce que l'homme produit par nature, spirituellement et moralement, est complètement insuffisant. Mais qu'est-ce qui est suffisant? C'est la grâce de Dieu dans notre vie, offrant par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je voudrais étudier Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Je vais lire le texte. Galates 5, 16 à 26. Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à la chair. Ils ont opposé l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres. en nous portant en vie les uns les autres. Je vous invite à prier. Seigneur, éclaire ta parole ce matin. Aide-nous, au moment d'étudier ce texte, et donne-nous la grâce de comprendre et d'accepter ce que tu as pour nous, pour que nous puissions marcher par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez donc les premiers versets de notre texte. Ça commence avec une comparaison entre deux genres de vie. Deux genres de vie. La vie de la chair et la vie de l'esprit. En fait, c'est une comparaison entre les désirs de l'homme et les désirs de Dieu. Il y a une tension dans le cœur et dans l'esprit de l'homme. Une lutte dans son âme. Et dans les versets suivants, nous voyons le résultat de cette tension. Nous voyons clairement quelles sont les œuvres de la chair. En effet, ce sont les choses qui déshonorent Dieu. Les œuvres de la chair représentent les péchés qui nous affectent nous-mêmes, les péchés qui affectent les autres, et les péchés qui sont particulièrement liés au paganisme, comme l'idolâtrie et la magie. Toutes les choses énumérées dans ces versets sont détestables à Dieu. Éphésiens 4, verset 30, dit que ces choses attristent l'Esprit Saint par lesquelles vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ces choses attristent l'Esprit Saint. Ainsi, quand nous arrivons au verset 22, nous voyons une autre liste. Ce n'est pas une liste des choses que l'homme fait tout seul. Par contre, c'est la liste des choses que Dieu fait dans l'homme. Donc, pour résumer, le texte nous montre la tension qu'il y a entre les deux genres de vie. Alors, il y a beaucoup de choses à étudier dans ce texte, mais nous allons commencer avec le début de verset 22 et les mots « mais le fruit ». Mais le fruit. Le choix de ces mots est intéressant parce que le mot « fruit » au verset 22 est opposé au mot « les œuvres » au verset 19. L'apôtre Paul n'emploie pas l'expression « le fruit de la chair ». D'accord. Par contre, il dit « les œuvres ». De la chair. Pourquoi cette différence? Je pense que Paul a voulu montrer que les œuvres sont quelque chose dont nous sommes capables, tandis que le fruit est quelque chose dont l'Esprit de Dieu est capable. Les choses détestables viennent de nous, mais les choses justes et saintes viennent de l'Esprit Saint qui cultive notre vie. C'est exactement la même idée que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 15, où Jésus dit « Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Un peu plus loin, Jésus explique que le Consolateur, le Saint-Esprit, doit venir et conduire tout ce qui demeure en Jésus. Comme je l'ai dit dans l'exemple tout à l'heure, il y a quelque chose d'important dans la comparaison entre la vie chrétienne et le fruit. Le bon fruit n'apparaît pas par hasard. Il faut le cultiver. Quand j'étais jeune, il y avait des pommiers dans mon jardin. Chaque année, j'ai goûté les pommes. Mais c'était toujours la même chose. Les pommes étaient toujours petites, abîmées et pleines de vers. Pourquoi? Parce que personne ne les entretenait. Les pommiers faisaient ce qu'ils voulaient. Et ce n'était pas efficace pour produire de bons fruits. De la même manière, ceux qui vivent sans l'entretien de l'Esprit Saint et sans la grâce du Père, vivre comme les pommiers dans mon jardin. Au lieu de bons fruits, ils produisent des choses détestables. C'est donc la chair qui produit des choses méprisables, mais c'est l'Esprit qui produit les choses que Dieu trouve agréables. La deuxième chose importante à remarquer en regardant la description des fruits de l'Esprit, ce sont les mots à la fin de la liste. On a regardé les mots au début de la liste, maintenant on regarde les mots à la fin de la liste. Et il dit, la loi n'est pas contre de telles choses. En pleuvant, de la même manière, Paul a dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont pas sous la loi. Encore une fois, nous voyons un contraste. Ceux qui vivent par l'Esprit ne produisent pas seulement de bons fruits, mais ils se débarrassent aussi de fardeaux de la loi. Alors, il faut se rendre compte que la loi n'est pas une mauvaise chose. Après tout, c'est quelque chose que Dieu a ordonné pour nous enseigner la justice et pour exposer le péché. Mais, comme le dit l'apôtre Paul à plusieurs reprises dans l'épître aux Romains, la loi aussi nous condamne parce qu'elle place devant nous une exigence qu'il nous est impossible d'atteindre. Imaginez que quelqu'un propose d'offrir 1 milliard d'euros à quiconque arriverait à dessiner tout seul, sans instrument, un cercle parfaitement rond. Je pense que beaucoup de monde essaierait, mais personne n'y arriverait. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Théoriquement, logiquement, c'est possible, mais pratiquement, c'est impossible. C'est exactement comme ça avec les exigences de la loi. La loi ne sauve personne, parce que personne n'est à la hauteur des exigences de Dieu. Mais par sa grâce, il peut nous sauver. Et avec ce salut, il veut nous donner le fruit que lui seul peut produire en nous. Contrairement à la loi qui est là pour nous restreindre, le fruit de l'Esprit, lui, n'a pas vocation à être restreint. La troisième et dernière chose importante à relever se trouve dans les versets 24 et 25. Après avoir vu qu'il y avait une lutte entre les œuvres de la chair et le fruit de l'Esprit, et après avoir compris quel était le fardeau de la loi et quelle était la liberté par laquelle nous devions vivre, il faut maintenant se poser la question de savoir comment nous pouvons gagner la victoire en tant que chrétiens. Il faut se demander, pouvons-nous connaître la victoire de la vie en Christ et résister au désir de faire la mal? La réponse à cette question se trouve dans les deux mots suivants. Crucifier et vivre. Crucifier et vivre. Ces deux mots qui s'opposent caractérisent notre vie sous la direction de l'Esprit. Le verset 24 dit que ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair. Le mot crucifié est un mot très fort qui signifie que nous nous sommes repentis et que nous avons complètement et absolument abandonné la chair. Mais en plus, Paul explique que la crucifixion de la chair est quelque chose d'actif. C'est quelque chose d'actif auquel nous devons participer continuellement. L'idée de la crucifixion en Christ est aussi employée dans d'autres textes bibliques, mais dans un sens passif. Par exemple, Romains 6:6 dit que notre vieille nature a été crucifiée, dans un sens passif. Galates 2:20 dit que je suis crucifié avec Christ. Encore, c'est passif. Les deux sont passifs. Dans un sens, donc, c'est Dieu qui a crucifié notre vieille nature. Mais dans un autre sens, c'est quelque chose que nous avons fait et quelque chose que nous devons faire continuellement. Après la mort de la chair, nous sommes libres de vivre par l'esprit. C'est comme une résurrection. Encore une fois, l'idée est présentée dans un sens actif. Où que l'esprit nous amène, nous devons le suivre. Et il est clair, selon les versets 22 et 23, que l'esprit nous amène à vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance, dans la fidélité, dans la douceur, dans la maîtrise de soi. La vie chrétienne et le fruit qui en découle, c'est quelque chose qui est produit par l'Esprit Saint. C'est quelque chose auquel nous pouvons participer librement. Et c'est quelque chose vers lequel nous devons nous efforcer de tendre par la puissance de Dieu et par sa grâce dans notre vie. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Historiquement, c'est le jour où les disciples ont fait l'expérience de quelque chose de surnaturel, quelque chose qui les a complètement transformés. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. C'est grâce au sacrifice de Christ sur la croix et grâce à sa résurrection que nous pouvons avoir la vie nouvelle par l'Esprit. Et comme Christ l'a dit, si nous sommes en lui, il enverra le Saint-Esprit, le Consolateur. Et ça, c'est important. Nous ne participons pas aux fruits de l'Esprit simplement parce que nous nous y résolvons. Plutôt, nous vivons comme une vigne bien cultivée par la grâce de Dieu en Christ et par la puissance de l'Esprit Saint. Je vous invite à prier. Seigneur, nous faisons monter notre adoration vers toi. Nous te remercions pour le fruit que tu produis en nous par l'Esprit Saint. Et grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Saint-Esprit, nous savons que tu nous connais complètement. Nous savons que tu connais nos cœurs et nos âmes complètement parce que tu demeures en nous. C'est notre désir, Seigneur, de marcher par l'Esprit chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen.